France Inter. France Inter, la Terre au carré.
Camille Cronier 2025, c'est votre lutte enchantée.
Hola, hombre! Un petit tango pour partir dans la région de Mendoza en Argentine, parler à Gabriel.
Hola.
Bon, alors lui, il n'est pas tango du tout, j'arrête mon gros cliché. Gabriel Joffre, il habite à 1500 mètres d'altitude à Malargü, au sud de Mendoza, avec, quand il regarde à l'ouest de ses fenêtres, les beaux sommets de la cordillère des Andes, et partout ailleurs, une zone aride avec pour seule végétation ou presque des arbustes pleins d'épines. Gabriel Joffre, il a 50 ans, il a une barbe, de longs cheveux noirs bouclés, et souvent un bandeau autour de la tête, qui symbolise les communautés Mapuche, dont il est le porte-parole. On dit qu'il est le Werken de l'organisation de l'identité territoriale Malalhueche, une sorte de chef, d'autorité, de coordinateur aussi de 26 communautés indigènes d'Argentine. Et si je l'ai contacté, c'est pour parler d'un charmant personnage. Javier Milei et sa célèbre punchline « Vive la liberté, bordel !» Le président argentin dont on a fêté en décembre la première année à la tête du pouvoir. Youhou ! Comme le temps passe pas vite. Javier Milei, autoproclamé libertarien anarcho-capitaliste, anti-système, pro-Trump, pro-Giorgia Meloni aussi, bref, d'extrême droite, ouvertement anti-avortement. Quant à la crise climatique, voilà le genre de truc qu'il déclare à la télé. Je ne nie pas le changement climatique. Ce que je dis, c'est qu'il existe dans l'histoire de la Terre, un cycle de température. Donc toutes les politiques qui rendent l'humain coupable du changement climatique sont fausses. Et oui, je crois qu'on a un bingo! Alors comment, justement, en Argentine, celles et ceux qui ne considèrent pas le dérèglement climatique comme un mensonge des socialistes, hein, c'est aussi signé Milei, pour lequel les activités humaines ne sont pour rien, donc, comment il et elle vivent cette situation ?
C'est grave. Cette personne en el poder est grave. Tiene objetivos graves.
Gabriel Joffre est cash, c'est grave, cette personne au pouvoir est grave et ses objectifs sont graves. Pour lui, Milei est un sociopathe qui n'a aucune limite pour faire des choses mauvaises, manipulateur aussi parce qu'il se sert du changement climatique pour faire du profit. Ça l'arrange bien par certains côtés en passant des contrats avec des entreprises pour de l'énergie solaire, pour des mines de cuivre, des mines de lithium. Bref, Gabriel ne voit aucun espoir dans ce président.
Non, Milei non. Milei no es la esperanza, al contrario, no, no.
Il ne représente pas l'espoir, au contraire, et
tenemos que denunciar esto.
Il faut le dénoncer. C'est ce que cherche à faire Gabriel avec toute sa communauté, en première ligne pour le dérèglement climatique, parce qu'il y a énormément d'éleveurs, de paysans, en transhumance permanente quasi, entre les plaines et les sommets des Andes, qui voient déjà largement les effets.
Las tormentas,
les problèmes, c'est la pluie, plus de pluie,
frío,
le froid,
frío,
plus froid,
calor,
la chaleur,
calor.
Plus chaude. On le remarque, et ça a des conséquences sur nos pratiques. Alors Milei doit-il pour autant être jugé responsable du changement climatique entamé bien avant son élection ? Le problème pour ces populations indigènes, c'est qu'il vient accentuer les choses avec ses copains extractivistes, donc, qui veulent s'emparer des terres de Gabriel et des autres. Il y a aussi du gaz de schiste et du pétrole. Son je m'en foutisme sur le reste, hein, il a totalement rétrogradé le ministère en charge de l'environnement, il a réduit les budgets, même si, c'est quand même à souligner, il n'a pas encore à ce jour, en tout cas, fait quitter l'Argentine de l'accord de Paris. Il est en train de détricoter les lois qui protègent les forêts et les glaciers. Et il vient aussi mettre en péril le mode de vie ancestral de ces communautés. À ne parler que de robots, d'intelligence artificielle. Alors, quels ont le savoir ? On apprend des phénomènes climatiques.
Éruption
volcanique, crue d'une rivière. Grosse chute de neige.
Grande.
Mais voilà, Milei lui table sur l'environnement pour faire du fric et sortir les Argentins de la pauvreté. C'est d'ailleurs actuellement leur préoccupation première, hein, très loin devant l'environnement avec une inflation record. Et il le sait bien, le président. Donc comment garder espoir quand notre vie repose sur le climat et la biodiversité ?
Creemos. Eso es así. Se cree.
On y croit, c'est ça, y croire. En n'oubliant pas que
los seres humanos creemos,
nous, les êtres humains, on croit dominer. Mais la nature est plus forte que nous. Elle peut nous éliminer totalement, mais ça, autant vous dire que c'est très loin de l'esprit de Javier Milei, encore au pouvoir pour 3 ans et qui va certainement s'éclater dans les mois qui viennent avec Trump et Elon Musk, un club beaucoup trop cool.
Merci beaucoup Camille Cronier. On peut réécouter votre lutte enchantée sur franceinter.fr. Hervé Poirier pour le magazine Epsilon. Vous nous proposez, Hervé, une petite balade dans les lisières des forêts, dont la science commence à reconnaître l'importance écologique.
Bah, on s'y arrête rarement dans les lisières. On fait souvent que la traversée. Il y en a partout. Il y en a partout en Europe. 40% de la surface forestière se trouve à moins de 100 mètres d'une lisière. Et rien qu'en France, il y a 800 000 km de lisières. Ça fait deux fois la distance Terre-Lune. Et il y en a de plus en plus. En particulier dans les zones tropicales avec la déforestation. Mais cet ourlet, souvent cousu par l'humain, plus rarement par des obstacles naturels, a longtemps été négligé par la science. Il ne relève ni des problématiques du monde forestier, ni des problématiques proprement agricoles ou urbaines. C'est une zone parasite pour l'étude de ces milieux, un objet intermédiaire, marginal, un no man's land institutionnel. Eh bien, vous savez quoi ? C'est en train de changer. Ce lieu commence à concentrer l'attention des écologues. Une première étude sur l'importance écologique des lisières à l'échelle européenne a été publiée l'année dernière. Et on commence à comprendre à quel point elles sont précieuses, aussi bien pour protéger les plantes et les animaux des forêts que pour les cultures et les troupeaux qui sont dans les champs qui les bordent.
Et concrètement, Hervé, c'est quoi l'impact de ces lisières ?
Bon, les études restent rares, hein, mais ça démontre déjà que les lisières abritent une biodiversité très riche, très singulière, avec la juxtaposition d'espèces propres aux deux milieux adjacents, ainsi que des espèces spécifiques. Il s'y mêle davantage de plantes à fleurs, d'arbustes, d'arbres fruitiers. Bon, il y a des reptiles, des musaraignes, des chauves-souris, mais surtout, il y a beaucoup d'oiseaux insectivores qui aident à défendre la forêt contre les ravageurs, et beaucoup d'insectes pollinisateurs qui bénéficient aux cultures avoisinantes. En Europe, rappelons, 60% des lisières sont à côté de terres agricoles. Autre rôle qui commence à être mis en valeur, les lisières forment un corridor écologique qui facilite la migration des espèces et, leur conservation donc, face au changement climatique. Dernier point, peut-être pas le moins important, c'est aussi une barrière qui protège la forêt contre les ravageurs, le vent, les incendies. Hervé Jacquetel et ses collègues de l'Institut National de la Recherche Agronomique testent actuellement cette idée dans le massif des Landes en plantant des lisières de feuillus autour des plantations de pins maritimes.
Et l'idée serait quoi ? De mettre en place une sorte de gestion agroécologique des lisières, c'est ça ?
C'est l'idée. Des chercheurs iraniens ont publié il y a quelques semaines une très jolie étude sur la forêt hyrcanienne qui borde la Caspienne. Les paysans de la région ont planté des vergers en bordure de la forêt, une sorte de lisière de lisière. L'analyse satellite, couplée avec le suivi détaillé de 38 espèces d'oiseaux, a permis de montrer que les oiseaux y sont beaucoup plus nombreux que dans les champs ou dans le cœur de la forêt. Même si ce bénéfice écologique il s'inverse si les vergers s'étendent trop. Bon, l'écologie des lisières, c'est encore une science balbutiante. Il n'existe ce jour aucune cartographie en France précise sur leur diversité, selon qu'elles bordent une ville, une route, un champ, une prairie, un lac, une montagne. Mais l'idée commence à s'imposer. Les lisières sont au centre de notre monde.
Ah carrément, à vous commencer l'année très fort, Hervé Poirier. Merci beaucoup, on retrouve le magazine Epsilon dans les kiosques au sommaire là, du mois de janvier.
Sur le plus 1,5 2024, première année où on dépasse le seuil symbolique décidé par l'accord de Paris.
Merci beaucoup Hervé Poirier, on termine comme tous les jours avec vos messages sur le répondeur.
Bonjour Christophe de Valrog dans les Cévennes. Je vous appelle au sujet de la réintroduction du grand tétras dans les Vosges. Il y a un exemple qui s'est passé sur de nombreuses années dans les Cévennes, notamment dans le Mont-Lozère, avec des réintroductions qui ont duré plusieurs années et un total échec de la réintroduction du grand tétras dans les Cévennes. C'est tout à fait similaire à ce qu'ils sont en train de faire dans les Vosges. Donc, voilà, ça serait bien que ça serve d'exemple. Bonne année.
Catherine dans l'heure. Bonjour, chère Terre au carré. Tous mes voeux, donc, pour 2025, continuer à nous charmer, enchanter, enrichir, etc., etc.
Je viens d'entendre votre éloge sur Claude Allègre. Bon, je n'appréciais pas plus que ça le personnage, mais bon, là, flinguer un mort, ça sert pas à grand-chose. Mais ils sont prêts à tout, ces écolos intégristes.
Bonjour la Terre au carré. Merci pour vos émissions, c'est Jean Hervé de Bordeaux. J'appelle à propos de Claude Allègre pour indiquer qu'il a fini par valider l'origine anthropique du réchauffement climatique. En septembre 2010, il a signé une déclaration commune de l'Académie des sciences qui confirmait que le CO2 produit par l'activité humaine accélérait le réchauffement climatique. Personne aujourd'hui ne peut dire que Claude Allègre continuait avant sa mort à défendre des thèses climato-sceptiques. Et bon, évidemment, il a fait ça à bas bruit. C'est jamais facile d'avaler son chapeau.
Bonjour la Terre au carré, Héry de Nice. Claude Allègre n'est plus, mais rassurez-vous, le climato-scepticisme se porte à merveille, à Nice en particulier. En moins de 3 semaines, le directeur des rédactions de Nice Matin a gratifié son lectorat de 2 dossiers avec des non-experts climatiques remettant en question la nécessité urgente de se battre contre le réchauffement climatique. On y a retrouvé tous les poncifs éculés des semeurs de doute sur le rôle soi-disant non complètement avéré des humains sur le climat, sur un changement s'inscrivant dans un cycle naturel, sur les cycles solaires et sur une prochaine ère glaciaire. Mais sérieusement, à quoi joue cette rédaction ?
Bonjour, je m'appelle Capucine, j'ai 15 ans et j'habite à Angers. Depuis 5 ans, j'écoute vos émissions toujours aussi enrichissantes et j'aimerais vous remercier pour cette source d'informations incroyable autour de l'environnement. Durant le confinement, j'étais très éco-anxieuse. Alors j'ai cherché un moyen pour à tout prix sortir de ce sentiment fataliste qui m'habitait. Comme beaucoup, je pense, celui que j'ai trouvé a été l'action. J'ai cherché une association accessible aux mineurs. Alors je me suis engagée à l'UNICEF pour essayer de contrer les crises environnementales et sociales en montant des projets autour des droits de l'enfant. J'ai ainsi pu me former à ces enjeux grâce à des personnes bénévoles que je ne remercierai jamais assez, puis sensibiliser à mon tour des jeunes en me rendant dans un collège, un lycée, une bibliothèque et même dans un club sportif. Merci infiniment à tous les bénévoles qui œuvrent chaque jour en faveur d'un monde meilleur et merci encore à la Terre au Carré.
Et merci Capucine, 15 ans, pour ce message et bravo pour ton engagement. 01 56 40 45 45.